La guerre 14-18 en pays cordé, Michel Bonnet.
Si sabías mon país, ani non ni frontiero, di l'Uber se spandis du nou foli pupeio, se trapo pescami di l'usan de l'aspero, di l'uca o del rasi, di la mar dell'albiero. Se sabías mon país, se scumpe la sinestro, di la flor che spelis, di l'ucor de las bestio, di l'umbro che blanquis, di l'auto che respeglio, di la dussur di unis,
Michel Bonnet, 14-18, en pays cordé. Bonjour. La semaine dernière, nous avons parlé du même sujet, si on peut dire, mais parmi les élus, nous avons mis à part le maire, M. Jean-Louis Favarel. Et aujourd'hui, nous allons laisser de côté, si on peut parler ainsi, le maire pour voir ses conseillers municipaux qui travaillaient avec lui, au moins ceux qui n'étaient pas mobilisés. Donc le conseil municipal pendant la guerre de 14-18. Et bien sûr, vous trouverez des souvenirs de Favarel, parce que le maire, il est lié à son conseil municipal. Mais enfin, regardons les élus. Il y a une chose qui est une situation qui est doublement spéciale. La première, bon, nous la connaissons, c'est que ils viennent d'être élus en 1912. Donc ils sont pas encore rodés. Ce sont de jeunes élus municipaux, si on peut dire. Ils ont envie de montrer qu'ils font mieux que les anciens, mais c'est pas sûr qu'ils réussissent. Enfin, etc. Puis ils ont des tas de travail à faire. Et puis surtout, il y a en pleine activité. août 14, la mobilisation et la guerre qui va durer, ça va même prolonger la vie du conseil municipal puisqu'on reculera les élections. Et un des premiers effets de la mobilisation, c'est que 5 élus partent au front, sont mobilisés. Les autres avaient plus de 50 ans, donc c'était des élus et sur une petite commune comme ça, avec 4 ou 5 commissions, on a vite fait d'être submergé de travail. une grosse charge de travail pour chacun des élus qui, si on peut dire, font en même temps leur apprentissage. Et puis, avec cette surcharge de travail, il y a des problèmes nouveaux qui sont spécifiques à la guerre et auxquels ils n'ont pas du tout été préparés. Les travaux habituels du conseil municipal, bon, ben ça, ils s'en doutaient, ils étaient dans l'opposition, ils ont prévu leur élection, etc. Bon, ça, c'est pas un gros problème. Mais par contre, lorsque tout d'un coup, pendant la guerre, bon, on va leur dire, il faut réquisitionner les chevaux, il faut réquisitionner... ramasser des tonnes et des tonnes de blé, de seigle, d'avoine, etc. Ça, ils l'avaient pas prévu. Et ça se fait pas du jour au lendemain. Et il y a beaucoup d'activités comme ça, des lois nouvelles. Par exemple, tout d'un coup, une loi sur l'allocation aux familles nombreuses. J'ai pas du tout prévu ça. Donc il va falloir mettre ça en place. Et autre chose à laquelle vraiment on ne s'attend pas, en tous les cas moi, quand j'ai commencé à étudier les archives, etc., je ne m'attendais pas du tout à ça, c'est que pendant la guerre, l'opposition politique continue. On met le tribunal, ça occupe, ça énerve, ça fatigue. Malgré tout ça, la marque numéro 1 de ce conseil municipal, c'est ça qui est extraordinaire, c'est pour ça que je pense qu'il faut en parler en quelque sorte longuement. C'est une marque qui vient du maire, mais pas uniquement, il a été l'élément fédérateur, c'est que tous ces élus sont hantés par le souci de leurs électeurs. Mais de leurs électeurs, pas en tant qu'électeurs, des gens de corde, des plus petits, des plus pauvres, des indigents, des malheureux, des malades, des femmes enceintes. En fait, tous ces gens qui ont des chances d'être un peu écrasés par les difficultés de la guerre. Donc, concentration sur tout ce qui est humain à Corde. Beaucoup plus que sur le pavage des rues, les bâtiments qu'il faut maintenir en état, etc. Bien sûr, ils le font, mais ce n'est pas leur souci numéro un, leur seul. Et bien sûr, il y avait des systèmes qui avaient été mis en place avant la Révolution par l'Église, avec les bureaux des pauvres, etc. À la Révolution, on avait créé des bureaux de bienfaisance, et puis ils ont continué tout doucement à s'améliorer. Donc, les communes, en 14, avaient la responsabilité d'aider au bien-être des plus faibles, les mères, et puis les malades de toutes sortes. Et pour cela, il y avait un budget. Il y avait bien sûr un groupe qui était chargé de cela, qu'on appelait le bureau de bienfaisance, qui était chapeauté en quelque sorte par le maire et un ou deux élus. Mais ce n'était pas le conseil municipal de les d'accorder des subventions ou pas, etc. Et en particulier, ce bureau de bienfaisance pouvait distribuer une allocation mensuelle qu'on appelait l'allocation aux vieillards et aux indigents, et qui était fixée de façon très, très précise. Il y avait un budget, bien sûr, pour l'année, mais en plus, chacune de ces allocations avait été fixée. On ne pouvait pas s'en servir n'importe comment. Il y en avait tant pour la nourriture, tant pour le logement. Vous voyez, si on regarde ça de près, l'allocation ne devait pas, d'après la loi, dépasser 20 francs de l'époque, 20 francs par mois. Et là-dedans, il y avait 10 francs qui pouvaient être mis pour la nourriture, 2 francs pour les vêtements, 2 francs pour aider au logement, 2 francs pour le chauffage et 4 francs pour diverses l'argent de poche ou des événements, etc. Et donc les élus devaient vérifier cela. Et c'est eux qui étaient chargés de ces choses-là. Et c'était c'est un gros travail, d'abord parce qu'il y a beaucoup de monde à regarder, et ensuite, il faut le voir tous les mois. On va revenir à ça avec toute cette liste de gens et de travaux.
Elle est à toi, cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné quatre bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand festin. Toi l'hôtesse, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'étranger qui sans façon d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés riaient de me voir amener. Ce n'était rien qu'un peu de miel, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand soleil. Toi l'étranger, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel.
Nous revenons au conseil municipal de Cordes et en particulier à ses activités qu'on appelle de bienfaisance. J'ai mentionné l'allocation mensuelle, on va y revenir, pour les vieillards et les indigents. Il y avait également une allocation pour les femmes enceintes, il y avait une allocation pour les familles nombreuses, il y avait l'aide médicale gratuite pour certaines personnes, etc. Et puis des urgences, comme hospitalisation subite, etc. Donc vous voyez, c'est un assez gros travail. On va revenir à chacune de ces catégories particulières. Donc, prenons l'allocation mensuelle qui était le plus important et qui demandait le plus de travail. Donc, comme je le disais, elle était très fixée de façon très précise et elle était actualisée. C'est-à-dire que les élus, enfin le bureau de bienfaisance, devaient vérifier si avec l'allocation qu'on donnait à telle personne, elle s'en tirait à peu près, ou au contraire, est-ce qu'il fallait quand même y donner un coup de pouce et l'augmenter à cause de difficultés particulières, un hiver qui est plus froid qu'un autre, une maladie qui est apparue, un accident, etc. Ou la vie pendant la guerre qui devient de plus en plus chère. Donc, tous les mois, ils doivent vérifier où est-ce qu'on en est. Or, il faut bien se rendre compte que ce n'est pas bien sûr toute la population de Cordes qui va toucher ça, mais il y a quand même là-dedans 2-3 bénéficiaires. 53 personnes, des vieux, des vieilles, beaucoup de veuves en particulier, parce que bon, ça, on le comprend très bien, non, souvent pas personne pour s'occuper d'elles. Donc voilà, 53 personnes qu'on va regarder tous les mois pour savoir s'ils s'en tirent. Et quand on regarde les activités du conseil municipal, on s'aperçoit que, bon, pour la veuve Moissé, il faudra l'augmenter de 6 francs. Pour Clara, eh bien, on va monter à 18 francs. Presque le total, le maximum. Oui. Donc, il y a comme ça tout un travail à la fois de documentation. Ça veut dire que dans le courant du mois, les élus se sont documentés sur la situation des gens. Donc, bon, documentés. Ils vivent ensemble, on les voit au marché, on les voit dans la rue, enfin ils se promènent, etc. Mais n'empêche qu'il faut qu'ils aient ça en tête pour se rendre compte de la situation de chacun. Et là-dessus, ce n'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire. Parce que il y a des gens qui essaient d'en avoir plus que ce à quoi ils ont droit. Si on peut grappiller un peu d'allocations, on est tous pareils. Hein. Diminuer les impôts et augmenter les allocations, c'est l'objectif numéro un d'un peu tous les citoyens, autrefois comme aujourd'hui, moi y compris. Bien, alors, donc là-dessus, il faut qu'ils soient sur leur garde, il faut qu'ils fassent attention, etc. D'autant plus qu'ils sont très surveillés par la préfecture. À la préfecture, il y a le même comité de bienfaisance, mais à l'échelon départemental, à l'échelon d'arrondissement également, le sous-préfet a des responsabilités, et ce sont des fonctionnaires qui reçoivent des rapports, qui les étudient plus ou moins, mais enfin, à partir de là, ils vérifient que ça colle avec les moyens qu'on leur a donnés. au début de l'année. On a un budget de temps pour le département et normalement, on ne doit pas en dépenser davantage. Et si possible, on doit essayer de ne pas tout dépenser. Voilà. Et donc, il y a comme ça une commission départementale qui, de temps en temps, étudie la question, même en venant sur le terrain. Mine de rien, il se renseigne. Je ne dis pas que c'est des espions, bien sûr, puisqu'on est en France, mais enfin, quelquefois, c'est ressenti comme ça, parce qu'ils viennent vérifier les comptes, ils vont voir des gens à domicile, ils entendent des commérages, des on-dit, on dit « Oh, celui-là, mais il a une allocation, mais tiens, il n'en a pas besoin parce que son fils, il lui envoie tout ce qu'il faut, etc. » Alors, ils se mettent ça toujours dans un coin de l'oreille, ils font un rapport. Et c'est comme ça que, tout d'un coup, peut arriver au conseil municipal une lettre du sous-préfet ou du préfet présentant le rapport d'un inspecteur départemental. Et voilà, en voilà un exemple. Le 24 juin 1916, donc c'est pas du tout avant la guerre, c'est en pleine guerre, quand les problèmes sont très très durs en 1916. Hein. Donc le 24 juin, voilà une lettre du sous-préfet qui dit « Le rapport de l'inspecteur départemental signale le trop grand nombre d'inscriptions dans la commune de Cordes et conclut à la radiation d'un certain nombre d'assistés. » Et le maire est prié de mettre en place une réunion de la commission administrative, une réunion du conseil municipal, pour voir qu'est-ce que vous faites, combien vous en radiez, etc., etc. Et faites-moi connaître par un des plus prochains courriers, donc il ne donne pas ça pour la fin de la guerre, hein, pas du tout, ce que vous en pensez, en particulier quatre personnes qui normalement devraient rien recevoir. Donc voilà, le conseil municipal qui est obligé d'étudier tous ces problèmes, parce que, eh bien voilà, l'inspecteur sait que la moyenne départementale, c'est de 20 personnes sur 1000 habitants qui normalement ont besoin de l'allocation, et à Cordes, on est à beaucoup plus que ça. On est à 61 inscriptions, donc il faut en enlever une quarantaine, ou enfin 37. Et bon, les gens du comité, là, donc, étudient ça. Et qu'est-ce qu'ils répondent ? Alors c'est ça. Ça, c'est extrêmement intéressant pour voir comment ils reçoivent leur rapport avec l'administration. Le conseil d'administration, qui va être envoyé par les élus, n'est-ce pas ? Donc les élus, le conseil d'administration, tient à faire remarquer que la liste d'assistance aux vieillards contient des noms qui ne devraient pas y figurer. Chaque fois que se produit le décès d'un assuré, le président a soin d'en aviser le service compétent et de lui envoyer un bulletin de décès, mais ce service n'en tient pas compte. Donc ils attaquent pour se défendre, c'est le meilleur moyen. We'll be right back.
La voix des pays au son du rock.
La guerre 14-18 en pays cordé, Michel Bonnet.
Les élus municipaux accordent, pendant la guerre de 14-18, nous avons évoqué une lettre de la préfecture pour vérifier qu'est-ce qui se passe, parce que on a l'impression qu'à Corde, on est un peu laxiste. Et donc les élus ont étudié la question un par un et ils répondent à la préfecture que tout va bien, enfin d'après eux, tout va bien, et donc ils refusent de supprimer des allocations comme on le leur dit. Et je termine leur réponse. Le gouvernement veut faire des économies et il les réalise au préjudice des plus pauvres. Alors qu'il se produit dans certaines administrations des gaspillages scandaleux qui permettent à certaines personnes de réaliser des bénéfices énormes. Donc les élus décident de maintenir l'allocation aux personnes concernées. Non, fin de non-recevoir. Donc vous voyez, ils se défalquent pas en disant « Ah, c'est le préfet qui a dit ça, excusez-moi, mais on vous raye de la liste, on n'y peut rien. » Non, non, ils se battent pour défendre le bien de ces gens, parce qu'ils savent, que ces personnes sont malades, sont fatiguées, etc. Donc ça, c'est un des gros travail du comité de bienfaisance, et on voit qu'il fait vraiment son travail avec son, pas seulement avec ses règles, avec son, comment dirais-je, pas sa machine à calculer si on peut dire, mais presque, mais avec son cœur. Chacun des élus connaît chacune des personnes fatiguées, malades, vieilles, etc. et essaie de les aider au maximum. Le deuxième gros travail qu'ils ont, c'est qu'il y a une allocation qui est prévue pour aider les femmes enceintes, parce qu'au moment de... ça représente, l'accouchement représente des frais, représente aussi une période, plus on est pauvre, plus c'est une période difficile à passer, parce qu'il y a des dangers, etc. La santé n'est pas toujours florissante. Autour de ces mamans, de ces futures mamans, il n'y a pas toujours l'aide qu'il pourrait y avoir. Et donc, ils sont là à donner ces allocations. Et il y en a quand même pas mal, parce qu'on est pendant la guerre, on pourrait imaginer que les femmes sont pas souvent enceintes si les maris sont sur le front, mais ils sont quand même 48. Il y a quand même 48 femmes qui ont accouché à Corde pendant la guerre et qu'il a fallu aider. Et parmi elles, on voit que les élus ont quand même un peu l'esprit large, parce que ils ne s'occupent pas de savoir si la femme enceinte est mariée, pas mariée, si ça va être une mère célibataire, etc. Du moment qu'une femme est enceinte, elle a droit à être aidée. C'est quand même une largeur d'esprit que on aimerait trouver un peu partout, même aujourd'hui, je dirais. Bien. Troisième série de soucis qui viennent, c'est que le gouvernement a décidé qu'il y aurait, juste au commencement de la guerre, a décidé qu'il y aurait une allocation pour les familles nombreuses. Alors, il a fallu étudier le système, il faut faire des tas de papiers, etc., etc. Bref, mais il y a donc des familles nombreuses qui ont le droit, bon, des gens qui ont le droit de poser une demande d'allocation. Et le conseil municipal étudie le dossier, et c'est à lui de décider si cette famille-là a droit à une allocation ou pas. Et si on regarde, dans le courant de la guerre de 14-18, il y a quand même eu 14 familles nombreuses qui ont demandé cette allocation et qui l'ont reçue. Là aussi, c'est aussi du travail. Il y a, je remarque au niveau des archives qu'il y a souvent des veufs qui se retrouvent avec un ou deux enfants, la maman est morte et les enfants sont là, et donc difficile à gérer, et donc ils ont droit à une allocation spéciale pour l'éducation des enfants, ou la vie des enfants. Voilà donc un troisième gros secteur d'activité. Il y en a un autre, celui-là, on n'a pas de... dans les archives, on ne peut pas trouver des informations très précises, parce que la santé, c'est interdit. Les dossiers médicaux sont tenus par le secret, etc. Mais il y a ce qu'on appelle l'aide médicale gratuite. Et le conseil municipal, tous les mois, à un moment donné, dit « à partir de maintenant, c'est le dossier de l'aide médicale gratuite ». Donc on ne prend pas de notes et on n'inscrit pas sur le cahier du conseil municipal ce qui a été décidé. Mais on sait qu'il faut donner l'aide à un tel, un tel, un tel. Et à un moment donné, il y aura un assez gros problème que le conseil municipal résoudra de façon assez, presque, je dirais, étonnante. C'est que ils ont été avertis que l'équipe qui s'occupait de l'aide médicale gratuite, il y avait des religieuses, etc., ne pouvait plus distribuer de médicaments. Elle pouvait continuer à soigner les gens, les visiter, etc., mais ses finances étant trop limitées, le coût de la vie montant avec la guerre, elle ne pouvait plus distribuer de médicaments. Eh bien, pour trouver l'argent, parce que les élus ont décidé de continuer à distribuer les médicaments, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont arrêté des travaux qu'il y avait à l'abattoir, là-bas au bord du Sérou, que tout le monde connaît, où on devait faire des cases spéciales pour mettre les porcs, en attendant les porcs, les bêtes, en attendant de les tuer, de les abattre. Ils ont dit, bon, ben, les bestiaux, ils attendront plus facilement que les personnes. Donc, voilà. Et puis, après cette aide médicale gratuite, il y avait les coups durs, qu'on ne peut pas prévoir, c'est-à-dire quelqu'un qui a un accident, quelqu'un qui devient fou, si on peut dire. Enfin, il y a eu comme ça des urgences qui ont demandé des hospitalisations subites. Il y en a eu 7 quand même dans le courant de la guerre, ce qui fait une tous les 6 mois ou à peu près, quoi. Et là, c'est pas facile parce que faut voir avec les médecins et puis il faut assurer le lien avec l'hôpital de Gaillac ou d'Albi, beaucoup le Bon Sauveur à Albi, et puis il faut assurer le transport et le suivi de ces personnes. Et c'est pas facile. À l'époque, les communications ne sont pas du tout comme aujourd'hui. Et donc, vous voyez, on voit un conseil municipal qui connaît personnellement et qui suit personnellement 166 personnes. Je le disais l'autre jour, je le répète, c'est un chiffre énorme et qui montre combien ces élus se sont consacrés véritablement à aider ceux qui les avaient élus, et ça pas du tout dans un objectif de campagne électorale, mais simplement parce que ces gens-là, je dis pas qu'ils les aimaient, mais enfin ils avaient une attitude très humaniste par rapport à eux. Un dernier point qui est tout à fait éclairant, c'est que le jour où on leur a annoncé qu'à l'asile, ce qu'on appelait le petit hôpital de Cordes, qu'on appelait l'asile, on avait supprimé le vin à table parce que il y avait plus d'argent, les élus immédiatement ont dit, mais c'est pas possible, mais le vin c'est une affaire de dignité, c'est pas une affaire seulement de nutrition. Pour ces vieux, ces quelques vieux-là, qui ont travaillé toute leur vie et qui tous les jours, quand ils étaient au travail, avaient leur verre de vin ou de piquette, et c'est du respect pour ces travailleurs, c'est de la dignité, et ils ont voté une subvention uniquement pour donner du vin à ces malades. Voilà notre vue rapide, très rapide, des élus municipaux, mais je pense que ça valait la peine. Et nous nous disons à la prochaine fois. Au revoir. I get my love.